En ce matin de Noël, recevez la grâce du petit enfant qui naît dans la crèche, ce petit enfant qui vient nous apporter son salut, qui vient nous rappeler notre condition d'hommes et de femmes sur la terre, tous un jour enfants. Bienvenue à vous tous ce matin dans ce lieu, bienvenue à vous tous qui nous rejoignez par Internet. Nous sommes ensemble en ce matin de Noël. Que tous ceux qui se sentent empêchés de venir dans les communautés, retrouver les autres pour toutes sortes de raisons et parfois des raisons difficiles, se sentent en communion avec nous. Vous êtes avec nous dans cette communauté ce matin. Je vous invite à la prière pour entrer dans ce temps de culte. Éternel, rassemble-nous, tels ces bergers devant la crèche, tels ces mages venus de loin, cherchant un salut pour le monde, un roi juste. Nous nous réunissons ce matin devant ce petit enfant que tu nous donnes comme signe, que ceux qui ont cru avant nous ont voulu voir comme le signe du salut pour ce monde, alors que rien ne ressemblait aux choses grandioses qui d'habitude sont censées changer le monde en lui. Il était si petit et pourtant si important. Éternel, réunis-nous, nous qui sommes tous dans ton amour, tes enfants. Amen. Je vous invite à prendre dans le psautier français. Je suis désolée, je pense qu'on s'est mal compris pour donner les livres. Donc j'espère que tout le monde a bien les deux livres. Et nous prenons le premier répond. Et c'est David Cassan qui est avec nous ce matin à l'orgue. Je vous invite à vous lever pour chanter ensemble. Réjouissons-nous au Seigneur. Et nous louons Dieu avec cet hymne de Marie. Et Marie dit, je magnifie le Seigneur, je suis transportée d'allégresse en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a porté les regards sur l'abaissement de sa servante. Désormais, en effet, chaque génération me dira heureuse, parce que le Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est sacré. Et sa compassion s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. Il a déployé le pouvoir de son bras, il a dispersé ceux qui avaient des pensées orgueilleuses. Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles, rassasier de biens les affamés, renvoyer les riches les mains vides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa compassion comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa descendance, pour toujours. Louons le Seigneur avec le cantique 101, les strophes 1, 2 et 3. 101 dans les louanges et prières. Je vous invite à vous asseoir. Jésus trace un chemin de la naissance jusqu'à la résurrection. Il nous invite à vivre selon des commandements qui peuvent nous élever, nous édifier, changer nos vies et faire advenir le règne de Dieu en nous. Et il nous rappelle, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton intelligence. C'est là le premier et le grand principe. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dans l'évangile de Luc, les pauvres sont partout. Dans l'évangile de Luc, qu'on appelle aussi l'évangile de la miséricorde, les plus petits sont sans cesse cités comme lieu de révélation de l'amour de Dieu et de son salut. Le théologien Dietrich Bonhoeffer, inspiré par ce regard sur les plus petits, se rappelle que tout homme va à Dieu dans sa misère et demande du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, dit-il, païens et chrétiens. Seigneur, des hommes vont à toi dans ta faiblesse, te trouve pauvre et méprisé, méconnu et trahi. Et c'est ainsi que tu vas vers leur détresse. Seigneur, prends-nous par la main, chacun ici, tous ceux qui te cherchent, et que chacun puisse aller comme toi, avec toi, vers le frère, celui qui a besoin qu'on soit son prochain. Amen. Levons-nous pour entendre la grâce renouvelée dans nos vies. Voici ce que dit Jésus de lui-même. L'Esprit m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la libération et aux aveugles le retour à la vue. Et Jésus ajoute, aujourd'hui, cette parole, quand vous l'entendez, est accomplie. qu'ainsi tous ceux qui se sentent pauvres dans leur cœur se réjouissent de la bonne nouvelle de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, que tous ceux qui se reconnaissent aveugles reçoivent l'assurance que Dieu vient ouvrir leurs yeux et tracer leur chemin, que tous ceux qui se sentent captifs sentent leurs chaînes tomber par la force de la parole de Dieu. Car aujourd'hui, cette parole est accomplie pour tous ceux qui l'entendent. Amen. Confessons ensemble notre foi. Nous croyons en Dieu qui se révèle à nous dans un petit enfant. Il nous rappelle notre condition humaine et peut nous sauver de toute arrogance. Il nous adresse sa parole de grâce en habitant notre terre. Grâce à lui, nous sommes bénis chaque jour. Nous croyons en Jésus, l'enfant qui naît à Bethléem. Il est la parole de Dieu qui s'incarne. Il nous parle de la foi qui transforme toute vie en espérance. Grâce à lui et à sa foi, nous pouvons affronter l'adversité avec confiance. Nous croyons en l'Esprit Saint, celui qui inspira Joseph, Marie, Élisabeth, Zacharie, et tous les témoins qui ont accueilli Jésus comme le Messie. Il nous éclaire dans la foi comme une étoile qui convertit notre cœur. Grâce à lui, nous pouvons rester fidèles à Dieu. Que l'étoile annonce son salut, que les anges du monde entier la suivent, que les bergers se remettent en marche et que les anges chantent ses louanges. Nous croyons en un Dieu qui croit assez en nous pour nous rejoindre dans notre fragilité. De la naissance jusqu'à la mort, sa foi est notre résurrection. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 2, sans surprise, les strophes 1 à 20. En ces jours-là parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre habitée. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Joseph aussi monta de Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait accoucher arriva, et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et l'installa dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Il y avait dans cette même région des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur survint devant eux, et la gloire du Seigneur se mit à briller tout autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il nous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe, vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix parmi les humains en qui il prend plaisir. » Lorsque les anges se furent éloignés d'eux vers le ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons donc à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils s'y rendirent en hâte et trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né couchés dans une mangeoire. Après l'avoir vu, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. Quant aux bergers, ils s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, conformément à ce qui leur avait été dit. Je vous invite à chanter le cantique 102, c'est ça ? 102. Nous prions ensemble. Seigneur, en ce matin de Noël, prépare en nous une place pour l'enfant qui vient nous rejoindre. Que le Verbe fait chair vienne habiter nos vies et devienne la bonne nouvelle de ton salut pour nous. Amen. C'est assez paradoxal que dans un contexte de dénombrement, on nous raconte l'histoire d'un salut qui échappe à tout calcul. Il y a de nombreux recensements dans l'histoire du peuple d'Israël. Et même si le fait de compter le peuple est considéré comme une faute devant Dieu, les Israélites du Premier Testament se livrent plusieurs fois à cet exercice du recensement, qui concerne souvent les hommes en âge de se battre, en fait. Dans le livre des Chroniques, le recensement ordonné par David est présenté comme une tentation. En effet, il est écrit « L'adversaire se dressa contre Israël, il incita David à dénombrer Israël. » C'est donc le Satan, comme l'appelle le Premier Testament, le tentateur, qui met cette idée de compter ses sujets dans la tête du roi David. Or, comme il est écrit, toujours dans le premier livre des Chroniques, cet ordre déplut à Dieu et David dit « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, pardonne, je te prie, la faute que j'ai commise, moi, ton serviteur, car j'ai agi tout à fait stupidement. » La chose semble si grave que le récit raconte que Dieu punit David et lui donne le choix de la sanction. C'est un peu la peste ou le choléra, hein. Il a le choix entre la famine pour son peuple, la guerre ou la peste. David choisit la peste contre toute attente. Mais quand il se retrouve devant le fléau qui s'abat sur son peuple, il en est terrorisé et il dit au Seigneur, « N'est-ce pas moi qui ai dit de dénombrer le peuple ? C'est moi qui ai péché et qui ai fait du mal. Mais ce troupeau, qu'a-t-il fait ? Seigneur mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur ma famille, je t'en prie, et qu'elle n'inflige pas un fléau à mon peuple. » David essaie de sauver le plus grand nombre de son troupeau. Ainsi, le dénombrement est considéré comme une faute grave jusqu'à parler du Satan, jusqu'à convoquer cette figure du mal. C'est considéré comme une faute, mais on a peine à comprendre la raison réelle de cet interdit. Pourquoi serait-ce préjudiciable à qui que ce soit de dénombrer un peuple ? Les États, en général, le font, et c'est un usage assez facile et surtout assez utile pour savoir où on en est et quel état des lieux on peut dresser d'un pays. Il semble bien que la vie de chaque membre du peuple appartienne à Dieu seul, et que compter ses sujets pour un roi revient à s'arroger un droit qui n'appartient qu'à l'Éternel. L'homme fidèle à Dieu n'a pas d'autre pouvoir que de constater que précisément, il n'est pas capable de compter les membres de son peuple. Dans le livre de la Genèse, Dieu ne dit-il pas à Abraham, « Contemple le ciel, je te prie, et compte les étoiles, si tu peux les compter. » Et il lui dit, « Ainsi sera ta descendance. » Impossible de compter le peuple de Dieu. Tous les chiffres sont faux. Rien ne correspond. L'évangile de Luc choisit précisément le contexte d'un recensement ordonné par un empereur romain pour situer l'action de son récit de nativité. Jésus, celui qui s'appelle Dieu sauve, naît au milieu d'un péché commun à nombre d'humains depuis la nuit des temps, celui de se prendre pour Dieu et de vouloir maîtriser l'humanité tout entière. Il s'agit là de compter toute la terre habitée, l'œikouméné. L'empereur fait une faute terrible aux yeux des Israélites. Évidemment, il n'est pas concerné par la loi de Moïse, mais il l'empêche que Luc convoque le souvenir de la faute de David. Le récit note avec précision à quel titre Joseph doit obéir à l'injonction qui lui est faite de revenir dans sa ville. Joseph est de la maison de David. Et c'est ainsi que le lien entre la faute de David et le recensement de Quirinus est raconté dans ce récit de naissance. Mais pourquoi raconter une naissance en plein recensement ? Peut-être parce que le recensement du peuple de Dieu est précisément impossible et que ce petit homme qui naît à Noël déborde. Il déborde, il échappe à tout comptage. Au moment où Joseph et Marie arrivent à Bethléem, ils sont deux. Mais à peine arrivés, ils sont trois. Jésus est le surplus qui échappe au comptage. Il est au-delà des velléités romaines de faire entrer le genre humain dans des calculs humains. Dès sa naissance, Jésus arrive hors du peuple déjà compté, et ainsi, il rappelle à tous ce qui échappe dans le salut de Dieu. Peut-être aussi est-ce le souvenir du peuple des Lévites, ces hommes de la tribu de Lévi qui étaient destinés à être prêtres et qu'on ne pouvait absolument pas compter, comme le décrit le livre des Nombres. Marie, la mère de Jésus, descend directement d'Aaron, le premier prêtre, et donc le premier Lévite. Alors peut-être que en Jésus, il y a cette part de la prêtrise qui fait qu'il échappe à tout comptage, comme les Lévites en leur temps. Dès sa naissance, Jésus arrive donc hors cadre, et il rappelle à tous ce qui échappe dans le salut de Dieu. Jésus ne sera pas compté. En échappant à ce comptage par l'Empire, la naissance de Jésus annonce le salut de la maison de David. On revient sur la faute de David, mais pour la pardonner, pour en faire autre chose, pour montrer qu'on peut y échapper. Et au lieu d'un ange tenant l'épée du Seigneur pour sanctionner le Dieu, le peuple de la faute de David, c'est une myriade d'anges qui chantent la gloire de Dieu et qui annoncent la paix pour les hommes en qui Dieu prend plaisir. Jésus, comme un nouveau David, annonce par sa naissance même le pardon de Dieu et le salut de ce peuple devenu possession de l'Empire contre leur gré. Avec lui, le peuple a une chance d'échapper, lui aussi. En n'étant pas compté parmi les sujets de l'empereur, Jésus semble faire un pied de nez à la belle administration romaine si bien organisée pour maîtriser les hommes et les transformer en chiffres. Mais comme si cela ne suffisait pas à faire comprendre la liberté de Dieu avec son peuple, l'évangile de Luc emploie un deuxième motif éclairant sur la nature du salut que Jésus promet. Alors que tous les voyageurs qui sont là pour le recensement sont logés dans la salle commune de l'hôtellerie, il n'y a plus de place pour Marie et Joseph. Là encore, ils sont en surnombre et s'ajoutent aux membres de la maison de David sans qu'on puisse leur assigner une place. Ils dormiront ailleurs. Le Sauveur ne s'intègre pas si facilement au monde tel qu'il est. Il est à part. Il est en plus, il est en surnombre, il déborde. Et c'est dans ce lieu inattendu d'une crèche, où d'habitude les moutons s'abritent, qu'il trouve sa place, lui le petit descendant du berger d'Israël, se retrouve avec ce troupeau dont Dieu prend soin d'âge en âge, ce troupeau que David regardait avec miséricorde pour qu'il n'ait pas la peste. Et c'est avec un troisième motif que l'évangile de Luc nous fait comprendre la portée de la naissance de Jésus. Ce sont des bergers qui sauront en premier que l'enfant qui est né est le sauveur d'Israël. Ils sont les premiers apôtres en quelque sorte de cet enfant qui apporte une nouvelle compréhension de l'alliance avec Dieu. Et quand ils racontent qui est cet enfant pourtant né dans une mangeoire, le texte dit: tous ceux qui les entendirent s'étonnèrent de ce que disaient les bergers. Et Marie retenait toutes ces choses et y réfléchissait. La mère de Jésus elle-même a besoin de temps pour réaliser la vocation de cet enfant et ce qui s'est passé. Elle aussi est un peu débordée par ce petit qui naît et qui transforme tout dans un ordre qui n'était vraiment pas prévu. La place des bergers est ici très parlante pour la communauté juive de l'époque et de la culture des rédacteurs de cet évangile. Les bergers sont toujours en état d'impureté rituelle parce qu'ils ne peuvent respecter le sabbat. Eux qui sont toujours dans les montagnes, ils ne viennent pas au temple. Eux qui travaillent même les jours de sabbat, eux qui sont toujours auprès des bêtes. Eux qui côtoient la mort parfois et qui ne peuvent pas s'en purifier. Eux qui élèvent des agneaux qui serviront au sacrifice du temple. Ils ne sont pas considérés par les religieux observants de leur époque comme des fidèles à part entière. Et pourtant, c'est bien de derrière un troupeau que sera choisi David, le roi d'Israël, un berger, un jeune berger qui vivait loin de sa maison et des affaires de son père et qui avait pourtant été choisi par le prophète pour devenir roi. Dans cette histoire où rien n'est comme prévu, où tout échappe au déroulement prévisible des choses, la naissance de Jésus révèle un retour sur les choix de Dieu. À cette époque, on comprend que l'Empire était un véritable fardeau pour les Israélites. Alors quand Dieu choisit de sauver son peuple de ce qui l'accable, c'est une véritable échappée qui a lieu. L'ordre établi n'est pas respecté, même si toutes les actions des protagonistes semblent aller dans le sens d'une obéissance. Le père de Jésus, Joseph, ne cherche pas à échapper au recensement. Il y va, bien gentiment, et rien ne se passera comme prévu. Et étrangement, ce qui résulte de cette transgression du prévisible, en quelque sorte, qui arrive dans les choses mêmes, sans que Marie ou Joseph ne le décide, est précisément ce qui apporte la paix aux hommes. Que faut-il y voir pour nous aujourd'hui? Pourquoi cette chose imprévisible, cette présence de l'imprévisible dans la vie des hommes serait facteur de paix? Peut-être que la paix se gagne au prix d'une disponibilité aux événements, tel que rien ni personne ne peut prétendre maîtriser le cours des existences. Peut-être faut-il apprendre à rester ouvert à ce qui arrive et à ne pas vouloir tout entrer dans nos prévisions et dans nos chiffres. Peut-être faut-il nous souvenir aussi que les hommes et les femmes de cette terre ne sont pas des statistiques, même si les statistiques sont importantes et utiles. Peut-être que cet enfant qui n'est jamais là où on l'attend, ni à Nazareth, ni dans l'hôtellerie, ni dans un lit d'enfant, nous raconte que nous ne devons pas trop faire de plans sur notre vie. Et si nous ne voulons pas être vite détrompés par les choses elles-mêmes, il faut nous attendre à tout. Mais pourquoi le fait d'être inattendu donnerait à cette naissance une puissance pacificatrice ? La paix qui est offerte par Dieu est annoncée par les anges aux bergers. Elle est celle de l'humilité devant la vie. L'orgueilleux ne veut pas reconnaître son incapacité à maîtriser le cours des événements. Et pour avoir raison contre les événements, souvent, il a recours à la force. Il contraint facilement la vie des autres pour qu'elle corresponde à ses plans. C'est d'une certaine façon la Pax Romana qui est ici critiquée dans ce récit. Une paix que l'Empire voulait à toute force, et parfois par n'importe quelle force. La vie des hommes ne rentre pas dans les cases qu'on lui avait préparées. Et si l'Empire veut maîtriser les peuples et les territoires, toute la terre habitée, il reste un territoire qui échappe à toutes les emprises. C'est celui de la foi de chacun, celui de son fort intérieur, celui de ses convictions propres, de son espérance pour l'avenir, de sa disponibilité pour Dieu, de la confiance intime dans un Dieu qui ne laisse pas contraindre et qui échappe à toute règle préétablie. Alors, frères et sœurs, en ce matin de Noël, que cette liberté nous inspire et qu'elle nous aide à rester toujours en éveil dans nos considérations sur nos contemporains et sur nos propres vies. La vie humaine est plus inventive que tout ce que l'on peut imaginer, et le cours des événements toujours propice à l'inattendu. Alors soyons veilleurs dans ce monde, ouverts aux imprévus, qui ne sont pas toujours regrettables, loin de là. Certains sont même des révélations du salut. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 108, je ne me trompe pas, oui, 108, dans les louanges et prières. Voilà, je vous invite à vous asseoir et nous allons partager ensemble quelques annonces.
À nouveau, joyeux Noël au nom du Conseil presbytéral et du Conseil de l'entraide d'ailleurs qui est avec nous. Je suis sûre que les conseillers de l'entraide aussi ont très envie de vous souhaiter joyeux Noël. Alors c'est vrai que hier soir il y avait une veillée ici. Et alors on a répété les 14 générations avant Jésus. Et du coup ce matin, comme on a utilisé que le louange et prière hier soir, on s'est dit que c'était pareil ce matin. Voilà. Mais vous avez remarqué quand même que tous les conseillers et les futurs conseillers, parce que j'ai repéré des paroissiens et paroissiennes qui se sont levés nous aider.
Ils ont le réflexe. C'est bien.
Vous avez eu exactement vos psautiers au moment où David Cassan finissait son morceau. Donc vraiment, on a été en tempo. Alors, je te remercie pour ta prédication qui explique qu'il faut pas compter. Hein, j'ai bien compris, mais alors, ça dépend quoi, hein. Parce qu'alors, en fin d'année, on compte beaucoup les donateurs. Hein. Ça... voilà. Les vies humaines, non. Les donateurs, beaucoup, on les compte. On les compte, on les recompte. On n'arrête pas de les compter. Mais la grâce est gratuite. Alors c'est le problème, c'est que pasteur Vincent Hubac disait là, investir dans une église, c'est quand même, on n'investit pas. Mais ça représente 1000 euros par jour, parce que j'ai pensé à ce que tu disais, il faut aimer l'imprévu. Alors il nous manque à peu près 15 000 euros pour finir l'année, ça fait 15 jours. Donc si on les a pas, on ferme 15 jours l'année prochaine. Voilà.
Je n'aurais pas pu être comptable, je crois.
Donc voilà. Donc tout va bien, mais juste 1000 euros, c'est une journée de fonctionnement de l'oratoire. 500 euros, c'est une demi-journée. Et pour ceux qui payent des impôts, 500 euros, c'est 150 euros au final. Si vous nous donnez 500 euros, ça ne coûte que 150 euros, c'est le miracle de Noël. Et si vous nous donnez 1000 euros, ça ne vous coûte au final que 290 euros. Donc voilà. Et puis si vous voulez rien donner du tout, ça n'est pas grave, parce que le don est joyeux. Donc vous serez moins joyeux que nous, mais le don est joyeux. Voilà. Et je le dis aussi pour ceux qui sont en ligne, il y a un bouton rose qui s'appelle le don joyeux. Les enveloppes sont faites pour les chèques, si vous le souhaitez, mais sinon vraiment Internet, ça marche très bien aussi, les virements aujourd'hui. Les chèques, c'était plus à la mode à l'époque, mais on aime aussi beaucoup les chèques. Alors ça, c'est en fête Noël, et à la sortie, on va partager la scène ensemble, donc vous restez en place, parce qu'on vient, on vient vous voir, on vient vous apporter la scène, on vient vous apporter les psautis, on vient vous apporter la scène, et puis on vient aussi, à la fin, on vous apportera aussi quelque chose, parce qu'on a beaucoup parlé d'étoiles hier, et on s'est dit quand même, ceux qui viennent le matin, ça serait sympa qu'ils partent avec une étoile de Noël aussi. Voilà. Donc, joyeux Noël à tous. Dimanche prochain, c'est le 1er janvier. Et nous fêtons le nouvel an aussi, dès le matin, 10h30, et nous aurons le pasteur Gilles Castelnau avec nous. La pasteur Agnès Adeline Schaeffer sera rentrée de vacances, et on se souhaite une super bonne année dimanche prochain, donc soyez aussi nombreux à 10h30 la semaine prochaine. À nouveau un joyeux Noël.
Voilà, je voulais juste ajouter que quand vous participez à la vie de cette paroisse, vous participez à faire vivre un lieu où tous les hommes et toutes les femmes qui vivent des imprévus dans leur vie auxquels ils ne sont vraiment pas préparés peuvent venir déposer ici leurs difficultés, peuvent venir partager avec les autres dans un lieu chaleureux et bienveillant, un lieu où on les écoute, où on les comprend et où ils peuvent être ce qu'ils sont avec tout ce qui leur arrive dans leur vie. Et je crois que c'est tellement précieux qu'il faut tous en avoir conscience pour qu'on puisse participer au fait que cela existe toujours dans nos sociétés. Merci beaucoup. Nous louons Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour Jésus, le Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau d'où toute oppression, toute larme et tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé, ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. » Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, avec vous, dans le royaume de mon Père. Nous prions ensemble. Père invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus le Christ, de sa mort, de sa résurrection, et aujourd'hui particulièrement de sa naissance racontée par la foi de ceux qui nous ont précédés. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire et qui ont besoin de notre soutien et de notre prière, pour que nous puissions leur apporter le témoignage de cet amour inconditionnel que tu as pour eux. Pour eux tous qui attendent ton secours, que ta volonté soit faite, Seigneur, que tu viennes sauver ce qu'il faut sauver dans chacun. Nous te remettons tous les peuples de la terre, tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants, que la lumière illumine les temps à venir. Que la parole retentisse pour annoncer ta paix, une paix juste et durable. Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent, parfois au risque de perdre leur vie, parfois dans des tourments impossibles à imaginer pour nous qui sommes en paix. Que chacun reçoive de toi la force et la joie pour accomplir sa mission, sans jamais s'en détourner, particulièrement dans les lieux où règne la guerre et la violence. Nous te remettons chaque personne en souffrance, chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin. Car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, ceux qui se tournent vers toi, mais de toute créature. Soutiens le malade et le mourant. Soutiens les proches qui accompagnent la douleur et la fragilité. Donne-nous la parole qui exprime ce soutien. Accompagne l'endeuillé et rends-nous présents à sa peine. Encourage celui qui cherche un emploi, un lieu où exercer son talent propre, un lieu où exister dans notre société. Celui qui se sent inutile, oublié, apprends-nous à partager son souci et à le considérer. Conduis tous les enfants dans l'espérance par ton esprit et aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité à tous ces enfants qui ont besoin qu'on ouvre devant eux un horizon, un avenir. Dispense ta sagesse à tous les responsables politiques. Permet que les sociétés soient présentes dans les moments d'inquiétude, que chacun puisse trouver des solutions pour sa vie et que nos sociétés s'organisent non pas avec le prévisible, mais surtout pour parer à l'imprévisible. Éternel, ouvre-nous à la vie même qui ne saurait être contenue dans toutes nos prévisions. Ensemble, nous te disons comme des enfants disent à un père quand ils ont confiance en lui, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous êtes toutes et tous invités au repas du Seigneur. Personne n'en est exclu. Que chacun se sente accueilli à ce repas. C'est le Seigneur qui vous invite. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te remercions pour ce repas, pour ce que nous avons partagé ce matin ici même, pour tout ce que tu nous offres dans nos vies et que parfois nous avons du mal à appréhender parce que nous ne l'avions pas prévu. Merci, Éternel, de nous faire partager le meilleur de chacun, dans cette Église et ailleurs, là où tes témoins sont. Merci pour ce temps mis à part dans nos vies. Frères et sœurs, c'est maintenant le moment de quitter ce lieu avec ce que vous avez reçu ici ce matin. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce vous bénit et vous garde. Il vous bénit et vous transmet son amour inconditionnel dans vos vies, tel que vous êtes, là où vous en êtes. Il est avec vous. Amen. Merci beaucoup à David pour tout cet accompagnement musical et je vous souhaite à tous un joyeux Noël.